Bien, aujourd'hui, nous allons commencer notre parcours dans le livre des psaumes, livre très important, bien sûr, à plus d'un titre, pour la place qu'il occupe dans la prière de l'Église. Alors, je vais commencer par une citation, plus exactement trois citations, qui sont de nature à nous conduire à l'identité profonde de ce livre des psaumes. Je cite « Le psautier est le résumé, le condensé de toute l'Écriture. » Ça, c'est une affirmation constante de toute la tradition chrétienne. La tradition juive et la tradition chrétienne en ont vivement conscience. On croit aisément que les interprètes chrétiens y aient retrouvé autant et plus que dans tous les autres livres inspirés, les mystères du Christ et de l'Église et de ses sacrements, les souffrances et les résurrections spirituelles du chrétien et l'annonce de la fin des temps. Avant même d'en faire le manuel fondamental de sa prière, l'Église a lu les psaumes dans ses assemblées liturgiques comme des prophéties. Saint Athanase, dans sa lettre à Marcellin, qui est l'une des meilleures introductions à la lecture chrétienne des psaumes, a établi une liste non exhaustive des passages les plus classiques où la tradition a vu des témoignages du mystère du Christ. Fin de citation. Ainsi parle le révérend père archimandrite Placide de Sayes dans son écrit intitulé « La douce saveur des psaumes ». Et dans cet écrit, justement, il cite le texte de la lettre de saint Athanase, qui est un document, enfin il la cite au moins pour ses aspects essentiels, et cette lettre de saint Athanase à Marcellin est un document très précieux qui nous renseigne sur l'interprétation chrétienne des psaumes. Et l'archimandrite Placide poursuit ainsi « Il suffit d'ouvrir le livre des psaumes pour constater qu'il est fait en très grande partie de chants de combat, d'appels de détresse, de chants de confiance dans l'épreuve et de cantiques d'action de grâce et de louanges pour la délivrance. Il ajoute « Cette atmosphère guerrière correspond bien à la vision patristique de la rédemption, conçue moins comme une expiation pour le péché, encore que ce motif n'en soit aucunement absent, que comme un combat victorieux du Verbe incarné contre Satan et toutes les puissances du mal. » Et le père Placide ajoute « C'est pourquoi il sera facile aux chrétiens qui prient avec les psaumes de reconnaître dans le peuple d'Israël ou dans le juste qui y sont mis en scène, le Christ, l'Église ou lui-même, appelé à revivre tout le combat rédempteur. Les attaques des ennemis, les épreuves et les fautes qui accablent le peuple ou le psalmiste, ce sont les assauts du démon et de toutes les forces mauvaises, contre lesquelles le Christ et en lui tous les siens ont à lutter. Et les chants de victoire et de louange deviennent des cantiques, célébrant la résurrection et l'établissement du royaume de Dieu, l'instauration de l'Église, les résurrections spirituelles du chrétien et la restauration universelle de la création à la parousie. Jérusalem, c'est l'Église. La terre promise et ses biens, ce sont les dons spirituels accordés à l'âme ici-bas et les récompenses eschatologiques. Le temple, c'est le corps du Christ. La loi divine devient la loi nouvelle promulguée par le Christ et inscrite dans nos cœurs par l'Esprit Saint. » Fin de citation. Et voyez-vous, je ne pouvais trouver mieux pour commencer ce parcours sur les psaumes que ces paroles du Père Placide qui nous mènent au cœur de cette prière du Christ et de l'Église à la suite d'Israël, cette prière que sont les psaumes. Notons que nous devons au Père Placide une traduction en langue française du psautier des Septante, traduction qui est très largement en usage dans l'orthodoxie francophone, comme nous le savons tous. Psautier des Septante, parce que c'est la traduction grecque des Septante, qui fut commencée à Alexandrie au IIIe siècle avant le Christ, et qui, je le rappelle, est aujourd'hui encore l'Ancien Testament normatif dans l'orthodoxie chrétienne. Bien sûr, il ne s'agit pas d'opposer le texte hébreu au texte grec, parce que la tradition du fait que c'est quelque chose de vivant est porteuse d'une pluralité de textes, lesquels textes d'ailleurs sont inséparables de l'interprétation. Mais le texte des Septante a toujours été reconnu, non comme une simple et très fidèle traduction, ce qu'elle est, mais surtout aussi comme un texte inspiré. Ah, c'est très important. Non seulement, texte inspiré, non seulement reconnu par l'Église chrétienne, mais avant elle, par Philon d'Alexandrie et la très importante communauté juive de cette ville, pour laquelle fut donnée cette traduction, comme nous le savons. J'en avais parlé au premier semestre dans les cours sur la formation du canon de l'Ancien Testament. J'avais relaté ce dont nous disposons sur l'entreprise de la traduction par les sages à Alexandrie. Alors, donc, entrons dans ce livre des psaumes. Pour ce qui concerne la numérotation des psaumes, eh bien, nous utiliserons ici celle des Septante et non celle du psautier massorétique, qui est en général utilisée par les Bibles en langue française qui, pratiquement toutes, traduisent exclusivement sur l'hébreu massorétique. Donc, ces psaumes, qui sont prières de l'Église, prières du Christ, parce que le Christ a prié avec les psaumes, eh bien, ces psaumes, nous le savons, sont partout présents dans les offices de l'Église. De quoi est composé ce livre des psaumes ? Il est composé de 151 psaumes, plus exactement de 150 plus 1, le dernier, le 151e, n'étant jamais lu à l'Église. Les psaumes, on va commencer par là, se répartissent en plusieurs genres, comme les citations du Père Placide qui viennent d'être données le mentionnent, et qui témoignent du fait que la parole de Dieu vit dans la prière de l'ancien Israël et de l'Église. Et par là, justement, on accède d'un sens littéral, d'un contexte qui a vu, d'un contexte historique qui a vu la rédaction de ces différents psaumes. On passe donc de ce contexte singulier à un sens beaucoup plus, enfin un sens universel en fait, spirituel, qui nous ouvre à une signification plus haute que celle, bien sûr, du contexte dans lequel les psaumes ont vu le jour, et par cette capacité à porter une haute signification spirituelle, les psaumes reflètent finalement tous les aspects de la prière des hommes vis-à-vis de Dieu. Alors d'abord, voyons les différents genres de psaumes. Il y a plusieurs genres de psaumes. On va essayer d'identifier les principaux. Nous remarquons tous que bon nombre de psaumes sont des hymnes et donc largement présents dans la prière publique comme dans la prière personnelle. Laquelle prière personnelle, je me permets de le rappeler au passage, est toujours un acte liturgique, même si on prie seul. C'est toujours la prière d'un membre de l'Église en communion avec le corps entier. Donc c'est toujours un acte liturgique. Il y a l'acte liturgique de l'assemblée en prière, mais la prière personnelle est également un acte liturgique. Alors les hymnes, ils sont en nombre, comme on peut s'en douter, dans le psautier. On peut en identifier un certain nombre, par exemple 32, 66, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 116, 133, 134, 135, 143, jusqu'à 150. Il faut dire ici également que quand on identifie les genres de psaumes, beaucoup de psaumes s'interpénètrent différents genres, différents aspects de la prière des hommes. Hein. Donc là, c'est une classification pour essayer d'y voir clair, mais il ne faut pas durcir le trait. Donc ces hymnes, eh bien, ils sont des invitations, exhortations à la louange, à l'action de grâce. Pourquoi ces invitations, ces exhortations à la louange, à l'action de grâce? Eh bien, pour les hauts faits, pour les bienfaits de Dieu, pour l'accomplissement du dessein de salut en faveur des hommes. C'est ainsi d'ailleurs que la tradition chrétienne a interprété l'action du Christ en notre faveur en priant les psaumes, puisque elle y a vu l'action du Christ dans cette prière des psaumes. On peut citer quelques éléments. Venez, bon, qui nous donne qui nous ouvre à certains aspects justement de ces hymnes, de ces psaumes hymnes, des invitations qu'ils contiennent, des exhortations à la louange et à l'action de grâce. Venez, exultons pour le Seigneur, acclamons Dieu notre Sauveur, c'est 94.1. Psaume d'invitation par excellence. Chantez au Seigneur, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. 95.2. Car tu es le Seigneur très haut sur toute la terre, tu es souverainement exalté par-dessus tous les dieux. 96.9. Exultez les justes dans le Seigneur, aux hommes droits convient la louange. 32.1. Confessez le Seigneur, car il est bon, car éternel est sa miséricorde. 135.1. Loue mon âme le Seigneur, je louerai le Seigneur en ma vie, je chanterai des psaumes pour mon Dieu tant que je serai. 145.2. Donc, voilà, ce sont quelques exemples de ce genre hymnologique qu'on trouve dans les psaumes, qui sont donc une invitation à louer le Dieu Très-Haut. D'abord pour la création qui est la première manifestation de Dieu, la première théophanie divine, la création qui est un acte d'amour en faveur des hommes, parce que Dieu n'avait pas besoin de la création. Il se suffit à lui-même, il n'est en manque de rien, donc il n'a pas besoin de la création, et pourtant il l'a fait venir du néant à l'existence, par un don, par un acte d'amour. Donc Les hymnes dans les psaumes, eh bien, louent le Dieu Très-Haut pour la création. D'autres aspects également, la délivrance de l'esclavage du peuple hébreu, l'élection du peuple d'Israël, le don de la terre promise, mais aussi l'exaltation de la puissance et de la miséricorde divine, l'exaltation également de la condescendance divine, pour la grandeur de ses œuvres, pour sa bonté. Et on peut d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, là encore sans forcer le trait, mais de quelle manière sont structurés ces hymnes, on peut remarquer que ces psaumes qui invitent à la louange, qui expriment le motif de cette louange, eh bien, ils ont une parenté, ou plus exactement la prière liturgique de l'Église a une parenté avec ces psaumes, à la suite d'ailleurs de la synagogue, et en particulier la grande prière eucharistique, qui fait mémoire de toutes les merveilles de Dieu accomplies en faveur des hommes. La grande prière d'action de grâce qui ouvre l'anaphore eucharistique, justement, fait mémoire de ces merveilles de Dieu accomplies en faveur des hommes, et nulle part ailleurs, elle n'est exprimée avec plus de hauteur et de magnificence dans la grande prière d'action de grâce de l'anaphore eucharistique de Saint Basile, le grand archevêque de Césarée de Cappadoce, que nous célébrons en ces dimanches du grand carême. Donc autant dire que ces hymnes sont pleins de jubilation. Il faut le noter, c'est l'une de leurs caractéristiques principales. Deuxième genre, pourrait-on dire, enfin, ou plus exactement autre genre, l'action de grâce, les psaumes d'action de grâce. Et évidemment, ces psaumes d'action de grâce sont liés aux hymnes. Ils sont également très nombreux, ces psaumes d'action de grâce, et là encore, on retrouve, les genres ne sont pas étanches les uns aux autres, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que on retrouve toujours de l'action de grâce, bien ailleurs que dans les psaumes qui sont identifiés comme tels. Ils sont très nombreux. On pourra noter un certain nombre d'entre eux, les psaumes 17, 29, 33, 64, 65, 75, 102, 103, 106, mais encore 110, 112, 114, 115, 123, 135, 137. Alors, peut-être que ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont le fait de personnes qui louent et remercient Dieu. Ils ont ce double aspect. À la fois le fait de personnes qui louent et remercient Dieu, mais aussi ils sont des chants de tout le peuple qui rend grâce, justement, à Dieu quand un danger a été évité, quand une victoire est remportée, quand le peuple est sauvé. Voici quelques courts exemples. « Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as pris avec toi et tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. » 29, 2. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera sans cesse dans ma bouche. » 33, 2. « Il convient de te chanter un hymne, ô Dieu, dans Sion, et à toi on acquitte les vœux dans Jérusalem. » 64, 2. Qu'ils le disent, les rachetés du Seigneur, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi et rassemblés de tous les pays. 106, 2. Qu'ils confessent le Seigneur pour ses miséricordes et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. 106, 8. Alors bien sûr, on pourrait très abondamment multiplier les références. Mais l'important, si on veut entrer plus avant, c'est d'aller directement à ces textes de ces psaumes et les lire avec beaucoup d'attention. Et les prier aussi, c'est le plus important. Action de grâce personnelle, donc. Action de grâce de tout le peuple. Et par-delà, invitation de tous les hommes à la louange et à l'action de grâce pour les actions du grand Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur ce genre de psaumes, actions de grâce, qui évidemment sont très présents dans les offices de l'Église, très présents et à bon droit dans les offices de l'Église. Il y a deux autres genres de psaumes qui sont aussi très importants. C'est les psaumes qui magnifient le roi et ceux qui exaltent la royauté du Seigneur lui-même. Ces psaumes sont d'une grande importance parce qu'ils sont en relation avec l'intelligence du messianisme, évidemment. En particulier, le fameux psaume 2. Ce sont des psaumes à l'origine en l'honneur du roi. Donc ce sont des psaumes que l'on pourrait appeler psaumes d'intronisation. Et ces psaumes d'intronisation ont revêtu une grande importance dans l'interprétation chrétienne des psaumes, comme par exemple ce verset 7 du deuxième psaume que nous connaissons tous. « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et évidemment ce psaume est appliqué au Christ, et en particulier ce verset est appliqué au Christ dans la tradition chrétienne. Il porte donc originellement une prière en faveur du roi et porte la promesse messianique qui a été faite à David et à sa descendance. Ce sont donc les psaumes 2, 109, 44, 19, 20, 71, 88, 131. Autre citation, parcourant rapidement quelques versets de cet ensemble. On va prendre le 109, versets 1 et 2. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Le Seigneur t'enverra de Sion le spectre de sa puissance. » Le sceptre de sa puissance, pardon. Domine au milieu de tes ennemis. Et donc, la tradition chrétienne y a vu là, bien sûr, la préfiguration de la victoire du Christ. Tu es le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, aussi Dieu t'a béni pour l'éternité. Psaume 44, 3. Que son nom soit béni éternellement, son nom demeurera autant que le soleil, toutes les races de la terre seront bénies en lui, toutes les nations le proclameront bienheureux. 71-17, qui est l'annonce de la messianité du Christ qui advient en faveur de tous les hommes, du peuple d'Israël et de toute l'humanité. Donc grande importance dans la tradition chrétienne de ces psaumes du roi. Et parallèlement et lié à eux, nous trouvons des psaumes qui exaltent la royauté du Seigneur lui-même. Et comme dans les psaumes du roi, comme en particulier dans le psaume 2, on retrouve ici la notion d'intronisation. Mais cette fois-ci, l'intronisation, ce thème de l'intronisation est appliqué à Dieu lui-même. Il ne s'agit plus là, donc après l'exil à Babylone, de la simple restauration de la lignée davidique, et par conséquent de la restauration d'Israël, mais de l'intronisation du Seigneur lui-même comme roi du peuple qu'il s'est choisi. Dieu est le roi du peuple qu'il s'est choisi. Ce sont en particulier les psaumes 92, 96, 98. Avec l'intronisation du Seigneur lui-même comme roi de son peuple, eh bien, évidemment, c'est une ère de bonheur qui s'ouvre devant lui, parce que son roi est son Dieu. Donc, ça ne peut plus être une ère d'exil, de malheur et de tribulation, mais au contraire, une ère de bonheur, de paix et de félicité qui s'ouvre devant lui. Après les dures épreuves de l'exil. Quelques références. Le Seigneur règne, il s'est revêtu de splendeur. Le Seigneur s'est revêtu de puissance. Il a mis une ceinture à ses reins, car il a affermi l'univers et il ne sera pas ébranlé. Psaume 92, 1, d'ailleurs, dont ce verset est récité dans une des prières que le prêtre dit lors de l'office de la préparation des saints dons, la proscomidie. Le Seigneur règne, que la terre exulte, que se réjouissent les îles nombreuses, 96.1. Et quand on parle des îles, comme dans la prophétie d'Isaïe, ce sont les païens, au loin, qui sont désignés. Car tu es le Seigneur très haut sur toute la terre, tu es souverainement exalté par-dessus tous les dieux, 96.9. Le Seigneur règne, que les peuples frémissent, il siège sur les chérubins, que la terre exulte. Psaume 98.1. Donc, il va de soi que dans l'interprétation chrétienne, ces psaumes qui exaltent la royauté du Seigneur lui-même sont autant d'hymnes à la royauté du Christ. Autre genre de psaumes très... Alors, ces psaumes aussi sont très présents hein, dans les offices de l'Église. Autre genre très important que nous trouvons dans ce livre des psaumes, ce sont les psaumes de pénitence. Ce sont des psaumes, là, des psaumes d'imploration. La personne ou l'assemblée implore la miséricorde divine, appelle sa condescendance, conscient qu'il est ou qu'ils sont de l'éloignement de la source de vie, conscient donc du péché. Je rappelle que le péché, c'est manquer la cible, c'est l'aspect moral du péché est une conséquence, c'est pas la cause. La cause, c'est de manquer la cible. Amartia, c'est manquer la cible. C'est-à-dire, c'est, comme son nom l'indique, c'est ne pas s'inscrire dans la finalité pour laquelle on a été créé. Donc la grande caractéristique de ces psaumes de pénitence, c'est que ce sont des prières suppliantes, des prières qui invitent au repentir, au retournement, à la métanoïa, à la réorientation vers Dieu. Ce sont des prières humbles, suppliantes, d'imploration, de repentir. On peut en repérer un certain nombre de ces psaumes de la pénitence, les 6, 24, 31, 37, 50, 101, 129, 142. Tous ces psaumes, vous les trouvez dans les meilleurs psautiers. Par exemple, dans celui de Père Placide, eh bien, à la fin, vous avez une rubrique où, en fonction des thèmes, les psaumes sont identifiés. Et évidemment, c'est très précieux parce que pour la prière personnelle, ça permet de s'y reporter. Souviens-toi de ta compassion, Seigneur, et de ta miséricorde, car elles sont éternelles. Psaume 24, verset 6. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mon péché, car il est innombrable. Psaume 24, 11. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis sans force. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont troublés et mon âme aussi est dans un grand trouble. Psaume 6, verset 3, 4. Et le psaume 50, probablement le plus connu d'entre ces psaumes de la pénitence, tant il est présent dans nos offices et dans la prière de l'Église, dans toute la prière de l'Église et dans la prière personnelle des fidèles. De ce psaume 50, notons ces versets 5 à 6. « Car je connais mon iniquité. » Iniquité, c'est l'injustice. Injustice devant Dieu. « Je connais mon iniquité et mon péché constamment devant moi. Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait le mal sous tes yeux. Ainsi tu seras trouvé juste en tes paroles et tu seras vainqueur quand on te jugera. » Autre citation, « Il a regardé la prière des humbles et il n'a pas méprisé leur supplication. » Psaume 101, verset 18. « Dieu s'abaisse, en quelque sorte, jusqu'à la prière des hommes humbles. Il ne méprise pas l'humilité de ceux qui reconnaissent leur péché et leur iniquité et il leur donne la grâce du pardon et la force par l'Esprit Saint de se retourner vers lui, le Seigneur. Autre citation, « Car auprès du Seigneur est la miséricorde et auprès de lui une abondante rédemption. » 129, 7. « Fais-moi entendre au matin ta miséricorde parce que j'ai mis en toi mon espérance. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher. » « Car vers toi j'ai élevé mon âme. » Psaume 142, verset 8, où celui qui implore demande la guidance divine. Donc, voyez, ces psaumes de pénitence, et c'est tout à fait logique et normal, ont une dominante d'imploration, de supplication. Ce sont vraiment des prières suppliante que le pécheur adresse à son Seigneur pour implorer son pardon, pour être guidé par lui, pour qu'il s'élève vers celui qui est la source de tout bien. Autre genre de psaume, les psaumes qui exaltent la grandeur de Dieu, sa transcendance, qui exaltent le fait qu'il est au-delà de tout. Comme dit une prière de Saint Grégoire de Nice, « Ô toi, l'au-delà de tout, celui qui est inexprimable, incompréhensible, infini, insaisissable, comme le dit la prière d'action de grâce qui ouvre l'anaphore de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Eh bien, il y a des psaumes qui exaltent sa grandeur. Là encore, ce thème est bien présent lui aussi dans les hymnes de louange, comme dans les psaumes d'action de grâce. Et Partout, d'ailleurs, dans le psautier, on retrouve des notations s'appliquant à la grandeur de Dieu. Parce que, je le répète, il y a une interpénétration des thèmes, des genres dans ce recueil qu'est le psautier. Bien sûr, il y a des dominantes, hein, on voit qu'il y a des genres avec des dominantes, mais en même temps, inséparablement, il y a une interpénétration de ces thèmes. Alors là, il s'agit donc des psaumes 8, 23, 28, 46, 47, 94, 138. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est admirable par toute la terre, car ta magnificence est élevée au-dessus des cieux. Psaume 8, verset 2. Ta magnificence est élevée au-dessus des cieux. Rien ne saurait finalement la décrire, cette magnificence de Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout, qui est au-delà de tout ce qui peut être dit. Alors évidemment, la prière des hommes l'a dit avec le langage des hommes, mais cette magnificence dépasse tout ce qui est concevable. Au Seigneur est la terre et sa plénitude, l'univers et tous ceux qui l'habitent. Donc là, c'est le psaume 23.1. Et il est intéressant de considérer que dans ces psaumes qui exaltent plus particulièrement la grandeur de Dieu, d'autres psaumes font écho, quant à eux, en évoquant la fragilité de l'homme, précisément. C'est peu de choses que les années de l'homme. En un matin, elles passent comme l'herbe. Le matin, elle fleurit et elle passe. Le soir, elle se flétrit, durcit et se dessèche. Psaume 89, 5, versets 5 et 6. Mais on remarque que cette fragilité de l'homme, eh bien, elle n'est pas abandonnée à elle-même. L'homme est un être créé qui a un commencement et une fin. Il est un être fragile. Il fait très souvent mauvais usage de sa liberté parce qu'il a été créé libre. La désobéissance d'Adam a entraîné l'introduction de la mort dans sa nature. Et néanmoins, il conserve sa liberté. Il peut choisir la voie de la vie ou la voie de la mort. Mais trop souvent, hélas, il recommet à son tour le péché d'Adam. De désobéissance à Dieu, il se coupe de la source de vie. Mais néanmoins, et c'est ça qui est tout à fait admirable, il ne cesse d'être l'objet de toute l'attention de celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Vous savez, toute la création, parce qu'elle est l'œuvre divine, et donc elle est œuvre bonne, l'ensemble de la création, sans exception, est l'objet de l'attention de Dieu. Mais dans la création, seul l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance. Et c'est pour cela qu'il est très aimé de Dieu, que Dieu l'appelle à la déification. Il est très aimé de Dieu et Dieu ne cesse d'être attentif à lui. Dieu ne cesse de le chercher. Ça, c'est vraiment prodigieux. Non seulement l'homme est appelé, bien sûr, à chercher Dieu, et il y a au fond de son cœur, si dégradé soit-il, un désir de Dieu qui est souvent tordu et absolutisé dans un sens qui est mauvais, mais il y a un désir d'absolu qui est au cœur de l'homme, très souvent mal traduit. L'idolâtrie elle-même, d'une certaine manière, témoigne de ce désir d'absolu de l'homme, mais qui est faussé, parce que l'idolâtrie entraîne le désir d'absolu vers une absolutisation de ce qui est transitoire, de ce qui est passager. Vous voyez ? Mais à ce désir d'absolu, si dégradé soit-il, qui est au fond du cœur de l'homme, eh bien, il y a Dieu aussi qui n'est pas loin. Lui qui est la source de tout, lui qui est au-delà de tout, en même temps il est très proche de l'homme. Il ne cesse de le chercher, il ne cesse de l'appeler. Malgré la fragilité de cet homme, malgré son péché, malgré ses faiblesses, malgré ses renoncements, ses lâchetés, eh bien, Dieu ne cesse de le chercher, de l'attendre. Il est comme le père de l'enfant prodigue de la parabole de l'Évangile. Autre genre de psaume, ce sont les psaumes qui expriment la confiance. La confiance, parce que dans la prière, qui est l'expression de la foi, eh bien, s'exprime la confiance en Dieu. Foi et confiance, c'est une même réalité. Ces psaumes de confiance, on peut les nommer 9, 10, 11, 26, 38, 55, 56, 61, 70, 88, 90, 120, 128, 130. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le protecteur de ma vie, devant qui tremblerai-je ? 26, 1. Espérez en lui, tout le rassemblement du peuple, répandez vos cœurs devant lui, car Dieu est notre secours. Psaume 61, verset 9. Celui qui demeure sous le secours du Très-Haut repose sous la protection du Dieu du ciel. Il dit au Seigneur, tu es mon soutien et mon refuge, mon Dieu en qui je mets mon espérance. Psaume 90, verset 2. Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 120, verset 2. Donc là, c'est l'expression de la confiance de l'homme vis-à-vis de son Dieu. C'est l'intimité de la foi qui parle, là, en exprimant sa confiance à Dieu qui est Père. Donc c'est le Fils qui parle en confiance à son Père et qu'il sait qu'il peut se reposer en lui. Donc tous ces genres de psaumes, tous ces thèmes qui servent à la prière du psalmiste, et par-delà, bien sûr, à la prière de l'ensemble du peuple, à la prière de toute l'Église, eh bien, tous ces thèmes psalmiques se retrouvent dans toutes les prières de la vie chrétienne, dans les prières des offices du jour, bien sûr. Vous trouverez dans le psautier de Père Placide une table de la répartition des psaumes pour les offices du jour. On retrouve également ces thèmes dans les fêtes de l'année liturgique, dans toutes les expressions du mystère du Christ, car dans la prière des psaumes, l'Église a reconnu le déploiement du mystère du Christ, dans ses différents aspects, l'incarnation, le baptême au Jourdain, la tentation au désert, la passion vivifiante, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, la seigneurie du Christ sur toute chose, l'universalité du salut, mais également parmi ces thèmes psalmiques, on trouve aussi des expressions pour l'invocation, la louange au Saint-Esprit ou à la Mère de Dieu et aux saints glorifiés de l'Église. Donc c'est bien que nous sommes en présence du livre qui résume toute l'Écriture. Donc entrer dans l'intelligence, dans l'intimité des psaumes, on le fait par la prière d'abord, mais aussi en scrutant l'Écriture. Parce que si l'Écriture est, si le psautier est le résumé de l'Écriture, eh bien, on entrera d'autant mieux dans sa compréhension que l'on persévère dans l'intelligence et l'étude de l'Écriture sainte, qui est une nourriture essentielle pour la vie chrétienne, comme le rappelait fort à propos notre métropolite Joseph. Résumé de toute l'Écriture, donc cela a été dit au commencement de mon propos en la citation du texte du révérend Père Placide, le psautier, il embrasse non seulement ce que contiennent l'Ancien et le Nouveau Testament, mais en quelque sorte, il rappelle toutes les merveilles qui sont disséminées dans le Saint-Livre. Il exprime tout ce que les hommes peuvent exprimer en face de leur Dieu. Il exalte la majesté divine et sa mystérieuse condescendance pour l'homme. Et bien sûr, il faut dire que tout cela brille d'un magnifique éclat. C'est vraiment une splendeur, on peut le dire, une splendeur que ce livre des psaumes. C'est aussi un abrégé de la longue histoire du salut, un abrégé des promesses prophétiques et, pour l'Église, de leur accomplissement dans la personne du Christ. C'est ainsi, je pense, que la tradition a lu le psautier, et c'est pour cette raison fondamentale que le psautier est au cœur de la prière de l'Église. Alors je terminerai en disant que les quelques thèmes qui ont été évoqués, on pourrait encore aller plus loin, les quelques thèmes prédominants qui ont été évoqués ont pour fondement, bien sûr, la prière personnelle, la prière de toute l'Église, la prière de louange, la prière d'action de grâce, la prière d'imploration, de supplication. Et ça fait que ce livre contient une très grande variété des états de l'âme humaine et une grande variété d'expériences spirituelles. Et c'est sans doute aussi pourquoi le cœur de l'homme qui entre dans ce livre de prière que sont les psaumes trouve son repos. On peut véritablement dire que là, le cœur de l'homme y trouve son repos, parce qu'il y trouve la nourriture, cette nourriture essentielle qui est la prière à son Seigneur, prière qui se déploie selon un registre qui recouvre tous les états de l'âme et du cœur de l'homme. Et dernière notation, nous remarquons que le livre des psaumes est abondamment cité dans le Nouveau Testament.